Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal au micro Lievin Bouinga. D'abord les titres, situation toujours très tendue dans le sud de Lubero, ce après l'occupation lundi d'Alimbongo par les rebelles du M23. Cette localité constituait l'un des verrous stratégiques des FRDC pour bloquer la progression des rebelles vers Lubero centre dans le nord Kivu. Denise Mukendi condamnée à 3 ans de prison pour faux bruit, faux en écriture et injures publiques à l'égard de l'opposant politique Jacques Ndala et des services de renseignement congolais. Le verdict est tombé hier lundi au tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema. Détail dans quelques minutes. Enfin, une délégation du Fonds de solidarité de santé à Mbujimayi. Objectif de sa mission, mobiliser les financements dans le cadre de la couverture santé universelle et aussi lancer le programme de la maternité gratuite. Sa coordinatrice Yolande Compagny est notre invitée. Bonjour à tous, nous commençons d'abord par cette situation sécuritaire qui reste encore très tendue dans le sud de Lubero et ce après l'occupation lundi d'Alimbongo par les rebelles du M23. Cette localité du Nord Kivu constituait l'un des verrous stratégiques des FRDC pour bloquer la progression des rebelles vers Lubero centre situé à 50 km et chef-lieu du territoire. L'avancée du M23 pousse des milliers d'habitants à fuir la zone. Les détails avec Martial Papi.
En ce mardi, les M23 occupent les localités de Matembe, Butorovia, Mambasa et Alimbongo. Ces localités, situées sur la route nationale numéro 2 qui mène à Lubero centre, sont tombées sous l'occupation des rebelles après 2 jours de violents affrontements avec les FRDC. L'armée conserve le contrôle des localités de Mbingi et Mbwavinywa et partage celui de Luofu avec les rebelles. Les forces loyalistes tiennent également leur position à Kitsombiro où elles se sont repliés lundi soir après avoir abandonné Alimbongo. La situation reste tendue dans la zone de combat où des sources locales rapportent des actes de pillage dans les habitations abandonnées. De nombreux habitants, en majorité des femmes et des enfants, fuient la région à pied, parcourant des dizaines de kilomètres avec des bagages sur la tête pour rejoindre Lubero centre. Les FRDC et les M23 continuent de renforcer leur position, faisant craindre une escalade de la violence. Un risque de détérioration de la situation humanitaire plane sur les sites de Lubero où les conditions étaient déjà critiques. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Entre-temps, des tirs nourris ont résonné dans la nuit de lundi à mardi à Oicha, cette fois chez le chef-lieu du territoire de Beni, mais également dans le village de Mavivi Vemba, ainsi qu'à Beniville. Selon la société civile locale, des soldats des FRDC à bord de véhicules seraient responsables de ces tirs. Pris de panique, plusieurs habitants ont fui dans toutes les directions, redoutant une éventuelle attaque des rebelles des ADF. Contacté, le colonel Mac Aouzaki, porte-parole des opérations Sokola 1 pour le Grand Nord Kivu, précise que ces tirs étaient destinés à manifester la joie et la détermination des soldats à partir au front pour combattre les rebelles du M23 dans le sud du territoire de Lubero. Aucun dégât n'a été signalé à la suite de ces tirs, a-t-il ajouté. Nord Kivu encore, direction Walikale à présent, où là aussi la situation sécuritaire est volatile. Elle demeure d'ailleurs tendue ce mardi dans plusieurs villages du territoire de Walikale. C'est notamment dans les groupements Ikobo et Kisimba. Ces entités sont depuis 3 jours le théâtre des violents combats opposant les rebelles du M23 à l'armée congolaise soutenue par les combattants Wazalendo. Jusque dans la matinée de ce mardi, des tirs étaient encore entendus autour de Bouleoussa. Le point avec Bernardin Nyangi.
Les attaques des rebelles M23 sur Bouleoussa, chef-lieu du groupe Maïkobo, se sont poursuivies ce mardi matin. Après des affrontements, les opposants au FRDC et VDP Wazalendo depuis dimanche dans la zone. Pour des sources civiles locales, des mortiers largués par les rebelles depuis Lusoa, au nord de Buito, au territoire de Rutshuru, Kimaka et Miriki, au sud du territoire de Lubero, sont tombés dans la soirée hier lundi sur Buleusa, causant la mort d'au moins deux autres personnes. Ce mardi, Buleusa, Katekou et autres villages voisins sont vidés de leur population. Certaines sources parlent d'une occupation de ces entités par les rebelles, alors que, pour les sources militaires, Buleusa serait encore une zone neutre. Par ailleurs, c'est une panique qui règne dans le village Malemo, sur l'axe Kalembe-Pinga, groupement voisin de Kisimba. Selon plusieurs témoignages, les rebelles M23 ont largué plusieurs obus hier lundi sur ce village. C'est en réponse à une attaque depuis dimanche des combattants Wazalendo contre leur position sur cet axe routier. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et puis ouverture des travaux de la table ronde pour la paix, la réconciliation et le développement, c'est dans quelques heures. Mais en attendant, le gouverneur de province appelle ses administrés à s'en approprier. Paulin Lendongolia demande aux récalcitrants se trouvant encore en brousse ou dans la forêt à quitter ces lieux et à déposer les armes. Car, précise-t-il, le processus de paix vient d'être lancé pour le vivre ensemble. Je vous signale que ces travaux seront présidés par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Suivez l'appel du gouverneur de la province de la Tchopo, Paulin Lendongoli, est au micro de Jacques Moukonkole.
Je voudrais vous appeler, mes frères et sœurs, d'abord de manifester cette affection-là, prouver que le forum était l'événement qu'on attendait. Et ceux qui sont encore maintenant en brousse, partout dans l'ensemble de la province, je vous appelle à revenir sur la bonne voie, abandonner les atrocités, les processus est mise en place pour la réconciliation. Nous devons accepter de vivre ensemble comme toujours. Les Tchopolaises et Tchopolaises ne sont pas des rebelles dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Si on doit compter les enfants égarés qui ont créé des rébellions dans ces pays, on ne comptera pas 10 ou 20 Tchopolais dans ces besognes. Voilà pourquoi nous ne devons pas ternir l'image de notre province, répéter province des pays. Notre ville de Kisangani, réputée comme une ville cosmopolite où tous les Congolais doivent vivre dans la paix totale. Ce n'est pas nous aujourd'hui que nous devons piétiner sur les efforts et les valeurs protégées depuis longtemps par nos aïeux.
Je le disais en titre, le verdict est tombé hier à Kinshasa. Le tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema a condamné l'influenceuse Denise Mukendi à 3 ans de prison pour faux bruit, faux en écriture et injures publiques à l'égard de l'opposant politique Jacques Ndala et des services de renseignement congolais. Le 4 décembre, le ministère public avait requis 8 ans de prison, mais le juge de paix en a décidé autrement, étant donné que le taux de peine reconnu à un tribunal de paix par la loi ne peut pas dépasser 5 ans. Retour sur les faits ayant conduit à cette sentence avec vous, Jeff Ngoy.
Ce jugement fait suite à une vidéo devenue virale sous la toile dans laquelle Denise Mukendi révèle que Jacques Ndala aurait subi un viol lors de sa détention à l'Agence nationale de renseignement en 2022. Des colibés s'en suivent entre elle et Jackie sur les réseaux sociaux, puis elle sera appréhendée dans sa fuite par les services de sécurité à partir de Brazzaville qui vont momentanément la détenir avant d'être transférée au parquet de la Gombe. Au cours d'une instruction préjuridictionnelle, elle sera chargée et placée sous mandat d'arrêt provisoire à la prison centrale de Makala. S'estimant victime d'une sodomie révélée par l'influenceuse, Jacques Ndala se constitue partie civile d'abord au premier procès devant le tribunal de paix de Ngaliema. Il réclame réparation et accuse l'influenceuse notamment d'injures publiques et de complicité avec ses bourreaux violeurs présumés de l'ANR. Il finit par se désister, mais il est en même temps poursuivi devant le tripé de Kinkolé par le parquet qui requalifie ses accusations de sodomie en propagation de faux bruits. Contre sa demande d'être médicalement expertisé par un médecin pour étayer ses allégations, le parquet le place en détention préventive à Makala, d'où il attend aussi un verdict depuis une semaine.
Les avocats de Denise Mukendi promettent de faire appel contre ce jugement qu'ils qualifient d'injuste. Dernier hommage rendu ce mardi à l'ancien gouverneur Aoutchaï Asenga Medara Bounia, gouverneur, acteur, politique, leader religieux, ainsi que les fils et filles de l'Itouri à l'honorable ont assisté à cette cérémonie de l'ancien député décédé il y a plus d'un mois à Kinshasa. Dans leur allocution, les différentes personnalités ont salué son patriotisme et dévouement au service de la province et du pays. Ils ont invité tous les Itouriens à imiter les bons exemple de celui qui est considéré comme le patriarche des acteurs politiques et cadres de l'administration publique de cette province. La cérémonie des obsèques s'est déroulée au stade Amani de Bounia en présence d'une foule nombreuse. Pour rappel, l'honorable Aoutchaï Asenga Medar a assumé plusieurs fonctions dans sa carrière politique, gouverneur, député et sénateur depuis environ 4 décennies. Son corps sera acheminé dans son village d'origine dans le territoire d'Arou pour l'enterrement. Retour à Kinshasa, ras-le-bol des habitants des quartiers Punda et Bangou dans la commune de Ngalima. Ils ont organisé ce matin un sit-in en barricadant la voie sur la route de Matadi pour déplorer l'avancée du ravin Bolikango ayant déjà englouti plusieurs maisons. Ils redoutent que cette tête d'érosion coupe en deux cette route reliant le quartier d'Elvo et la commune de Selembao si rien n'est fait dans les jours à venir. Ces habitants lancent un cri d'alarme au gouvernement de la République et surtout au chef de l'État pour qu'il s'implique personnellement en vue de trouver une solution rapide à cette situation qui met beaucoup de vies humaines en danger. Suivez Pascal Chiinda, un notable du quartier Punda, joint par Blaise Chindani Kambala.
En son temps avec le président honoraire Joseph Kabila Kabange, lorsque nous avions exprimé notre mécontentement, il était descendu sur terrain et on a eu une solution. La société chinoise était venue construire une distance d'environ 300 mètres. Hélas, comme il n'y avait plus de subventions du gouvernement, la société a plié bagage. Et au fil du temps, l'érosion continuait à ronger, ça continuait à ronger le travail qui a été fait fort malheureusement. Il y a eu des pertes de vies humaines, il y a eu des maisons effondrées, parents qui sont ça et là, des familles délaissées ne sachant plus où aller. Ce matin, nous avons pris la résolution de faire un sit-in au niveau de la route pour faire entendre nos voix. Et là, nous faisons allusion au premier citoyen qui y a dans son jargon le peuple d'abord, alors que c'est lui qui est, comme je le disais, notre papa. Et cette route qui est vraiment capitale, cette route devrait en principe relier le quartier d'Elvo et Selembao. Et maintenant, les maisons effondrées, nous avons fait un sit-in pour faire entendre notre voix, pour que le chef de l'État, au travers le ministre des ITPR, qui nous vienne en aide.
Et puis dans le territoire de Kasangoulou au Congo central, le député provincial Pichung Kongo Kinsala dénonce à travers une motion d'information l'érection de plusieurs barrières dans sa circonscription électorale. Dans cette motion d'information introduite à l'issue de la plénière d'hier lundi à l'Assemblée provinciale du Congo central, cet élu du peuple estime que ces barrières constituent un moyen pour des policiers de tracasser la population. Le député provincial Pichung Kongo a demandé à la plénière la suppression pure et simple de ces barrières. L'extrait de son intervention est choisi ici par Nana Pluriche Mambou.
J'interviens en motion d'information. Suite au cri de détresse de la population de Kasangoulou par rapport aux différentes barrières placées sur les tronçons Ngili Brasserie San, précisément à Yanga, à Ngandama Temele, à Kipung, et les tronçons Fururuana Ruzumu, précisément en Fururu vers les Dio, Sept-Omo, et avant les ponts de la rivière Ruzumu. Ces barrières sont en train de rançonner la population de Kasangoulou. En cas d'absence de la carte des lecteurs, il faut débourser 5000 francs congolais. En ma qualité de député provincial de cette circonscription électorale, je propose la suppression immédiate de toutes ces barrières pour permettre à la population de vaguer en toute quiétude et surtout pendant cette période de fête de Nouvel An.
Autre nouvelle, manque criant d'eau potable dans le territoire de Kasongo-Lunda, dans la province du Kwango. Et cela dure depuis plusieurs années. Conséquence, ses habitants consomment l'eau de la rivière et des sources non aménagées. La situation est observée au chef-lieu du territoire, mais aussi dans les secteurs. Face à cette difficulté, l'administrateur de Kasongo-Lunda, Arsène Koukangidila, qui le dénonce, redoute la résurgence des maladies d'origine hydrique. Il invite ainsi le gouvernement à intervenir rapidement afin de trouver des solutions à ce problème. Irène Bomaluzolo pour le reportage.
Outre les difficultés liées notamment aux infrastructures routières, les territoires de Kasongo-Lunda acquisent aussi des problèmes permanents d'accès à l'eau potable. Cette partie de la province du Kwango ne dispose même pas de sources aménagées ni tout autre système pouvant desservir la population en eau potable, sauf les quelques forages qui du reste sont insuffisants. Les habitants sont obligés d'épuiser l'eau des rivières tant pour la consommation que pour tous les autres besoins des ménages. C'est ce qu'a rapporté l'administrateur de ces territoires lors d'un entretien lundi avec Radio Okapi. Arsène Koukangidila plaide auprès des autorités compétentes afin de trouver des solutions idoines à cette situation.
L'eau à Kasongo-Lunda pose un sérieux problème. La population généralement prend l'eau dans les grandes rivières polluées et quelques sources qui sont polluées. Donc il faudrait qu'une solution soit rapidement trouvée. Le fait que la population utilise cette eau souillée pose beaucoup de problèmes, des maladies hydriques, des fièvres typhoïdes que nous avons ici. Donc le besoin en eau est un besoin très pressant. On y trouve des solutions.
Arsène Koukangidila indique que cela fait plusieurs années que Kasongo-Lunda connaît cette carence d'eau potable. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Manque de médicaments de qualité, cette fois dans le nord du Maniema, le vice-gouverneur de province vole au secours de sa population. Corneille Katisamba Makoubouli a remis une tonne de médicaments aux zones de santé de Lubutu et au Bokoté. L'autorité précise que ces produits pharmaceutiques sont achetés sur fonds propres du gouvernement provincial. Corneille Katisamba Makoubouli est joint depuis Lubutu par Florence Kizalunga.
Oui, je dois les remettre le médicament de zone de santé de Lubutu et de Bokoté. C'est à peu près une zone de médicaments. Parce qu'ici, dans ces deux zones de santé, il y a des problèmes sur l'approvisionnement de médicaments. C'est pour maintenant chercher à améliorer les conditions de vie. On est membre du gouvernement provincial du Maniema, chapeauté par le gouverneur Moussa Kabankoubi. Notre vision, c'est la vision des chefs de l'État de l'Institut. En tout cas, je demande aux bénéficiaires d'utiliser un bon père de famille, car vous savez, notre population des zones de santé de Lubutu et de Bokoté était en rupture de médicaments. Si eux s'agarderaient de vendre ces médicaments, la population s'y dénonce, ils peuvent être sanctionnés conformément à la loi. Nous cherchons à améliorer la condition de vie de la population du Maniema en général et celle des populations de Lubutu en particulier.
Actualité internationale.
À l'étranger, l'Union européenne accentue la pression sur les responsables de la guerre au Soudan. Ce lundi, Bruxelles a ajouté les noms de 4 nouveaux individus à sa liste de personnes placées sous sanction, tenues pour responsables d'activités compromettant la stabilité et la transition politique du Soudan. Ils font l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire européen, d'un gel de leurs avoirs et d'une interdiction de leur fournir des fonds.
L'invité.
Le Fonds de solidarité de santé FSS sera bientôt installé au Kasaï oriental pour mobiliser les financements dans le cadre de la couverture santé universelle. À cet effet, une délégation du FSS séjourne à Mbujimaï depuis quelques jours pour lancer le programme de la maternité gratuite. Yolande Compagny, coordonnatrice provinciale du FSS, s'entretient ici avec Esther Ndalafina.
Bonjour Madame Yolande Compagny, où en êtes-vous avec l'installation du Fonds de solidarité de santé au Kasaï oriental?
En réalité, nous venons installer le fonds, mais nous voulons lancer un programme du fonds, notamment le programme afférent à la maternité gratuite, qui est effectif depuis une année sur Kinshasa, 3 mois au Bas-Congo, et nous voulons lancer le même programme ici au Kasaï oriental.
Depuis que vous êtes là, vous avez effectué quelques missions dans les territoires. Pourquoi consistent vos missions de terrain?
En réalité, nos missions dans les territoires consistaient à conventionner avec toutes les structures accréditées par l'ARCSU, qui est l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle. Cette liste, elle nous a été transmise et au regard de toutes les informations et renseignées, ça nous a permis de descendre sur le terrain, par axe bien sûr. Nous sommes allés à Kabeakamwanga le dimanche. Nous avons recensé 16 structures accréditées. Cela nous a permis de conventionner avec ces structures. On a fait la même chose à Chilling, à Miabi ainsi qu'à Mbujimayi.
Quel est l'avantage de ces fonds de solidarité de santé?
La couverture santé universelle concerne tous ceux qui habitent le sol congolais. Et dans la couverture santé universelle, il y a plusieurs bras. On appelle ces bras les établissements de facilitation. Nous en avons plusieurs. Je peux en citer quelques-uns déjà. Il y a le fonds de promotion santé, il y a l'ARCSU, il y a ANICNS, il y a COREP. Il y a aussi le fonds de solidarité santé. Le fonds de solidarité santé a pour mission la collecte des cotisations, la gestion de ces cotisations, ainsi que le paiement des prestations. Donc, je pense, si tout va très bien, le premier trimestre de 2025, nous allons débuter avec dans l'assurance maladie obligatoire.
Et jusque là, combien de structures sont viables, d'après vous?
Je ne veux pas trop utiliser l'expression viable. Je veux plutôt utiliser l'expression accréditée. Il y a 269 structures accréditées sur le Kasaï oriental. Parties à Kabeakamwanga, à Miabi, à Chilingé. Mais c'est vrai que ce ne sont que des axes. Parce que lorsque nous allons à Miabi, nous avons recensé Chilundu. Nous avons recensé Miabi aussi. Lorsque nous allons à Chilingé, nous avons recensé Kasonsa. C'est un peu comme un regroupement de plusieurs zones de santé autour de la zone de santé de Chilingé.
Et les bénéficiaires de ces fonds de solidarité de santé, comment seront-ils informés par rapport aux structures qui sont accréditées pour se rendre vraiment dans les structures accréditées?
Effectivement, nous allons passer par la voie des médias pour pouvoir communiquer avec la population parce que dès le moment où la gratuité est lancée, nous allons utiliser fortement les médias pour atteindre les territoires, les villages et certains secteurs.
Oui, nous avons appris déjà à Kinshasa, là où on a lancé ce programme, il y a eu quelques plaintes des femmes qui vont là-bas mais qui ne sont pas bien prises en charge parce que les prestataires de santé qui pensaient recevoir quelque chose comme par le passé ne reçoivent plus rien. Ici, comment se fera les suivis?
Il est vrai qu'à chaque fois qu'on parle réforme, il y a des avantages et des désavantages. La réforme, elle n'est pas forcément acceptée par la population, moins encore par les prestataires. À Kinshasa, tout n'est pas parfait, mais j'aurais souhaité qu'on puisse le dire en termes de proportion. S'il y a une infime proportion des prestataires qui disent que la réforme n'est pas bonne, là, je ne suis pas d'accord. Mais par contre, quel est le taux de satisfaction des femmes au regard de ce programme? Je pense qu'on devrait s'y pencher. Nous avons pris l'expérience de Kinshasa, l'expérience du Bas-Congo. On va devoir réfléchir sur les mécanismes pour éviter de retomber dans les mêmes problèmes ici au Kasaï oriental.
Et aussi par rapport aux prestataires de santé, quels mécanismes allez-vous utiliser pour qu'ils soient payés au moment opportun?
En tout cas, pour le paiement, ça ne pose pas de problème. Pendant qu'on faisait notre tournée, on leur a dit on ne payera pas de main à main. Les Maboko Bank, nous, on ne peut le faire. Ces structures sont obligées d'ouvrir des compte, nous avons pris une banque partenaire qui va nous accompagner, c'est la TMB. Au travers de leur compte, chaque fin du mois, ils doivent nous déposer des factures. Nous faisons une vérification, une validation des prestations. À la fin de la vérification, il y a un PV qui est établi. C'est au regard des éléments cristallisés sur le PV qu'on peut dire que votre facture sera payée. Ils doivent respecter la date de dépôt des factures. Parce que la date limite, c'est le 5. Si vous nous emmenez le 20, c'est qui est sûr que vous aurez un glissement. Tant que vous respectez la date à laquelle vous êtes soumis à déposer la facture, nous nous prenons simplement 10 jours pour la validation. Au bout de 10 jours, vous avez l'argent.
Madame Yolande Compagnie, je vous remercie.
Merci à vous aussi.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Sebujangwe, à Élisée Chikota et à Dieudonné Nyangasa. Bon après-midi à tous.